Chapitre 112. Ankara, Turquie. Les flûtes indiennes du deuxième mouvement de « La symphonie du Nouveau Monde » couvraient depuis quelques secondes les cordes des violons. Le téléphone sonna à cet instant précis. 5h03. Veysel Erugun, le chef des services secrets turcs, s'endormait toujours en programmant une compilation symphonique de plusieurs heures. Il se plaisait à imaginer que la musique classique puisse repousser ses pires cauchemars. Il s'empara du téléphone avant que Lamia ne se réveille. 3 clics. Il lut. 5 lettres. Il se dressa dans le lit, incapable de tout autre geste, laissant les lentes vagues de l'adagio noyer ses pensées. 5 lettres. Aora. Il transpirait à présent. Ce n'était pas la première fois que Veysel Erugun allait commanditer un assassinat au nom de la raison d'État, mais jamais il n'avait ordonné un crime de cette ampleur. Autant de civils. Il alluma la lampe de chevet. Lamia grogna. La musique, la lumière, le bruit. Veysel ne voyait d'elle que son dos nu. À près de 60 ans, il continuait d'adorer le dos de sa femme. Son visage s'était ridé, sa poitrine s'était doucement affaissée, son ventre s'était plissé. Mais il avait continué d'adorer le dos de Lamia, allongé sur une plage d'Anatolie, serti dans une longue robe lors d'un dîner officiel, collé à lui dans le lit. Il caressa la colonne vertébrale de Lamia pour qu'elle retrouve le sommeil, de la nuque jusqu'aux fesses. Elle se tordit dans les draps, partagée entre inconscience et plaisir. De l'autre main, Veysel Erugun tapa d'un doigt un court message sur l'écran tactile de son iPhone. Faruk Yildin, le ministre turc de la Défense nationale, aimait se lever tôt et lire pendant 1 heure. Il dévorait un roman entre 5 et 6 heures du matin, lorsque tout le monde dormait dans son immense villa, puis épluchait les journaux internationaux dès qu'on les lui apportait. Depuis le début de la semaine, il était plongé dans les rocambolesques aventures de Kéraban le Têtu. Ce sultan de pacotille, imaginé par Jules Verne, qui refusait de payer une taxe pour passer le Bosphore et préférait contourner le détroit par la mer Noire, le faisait mourir de rire. Le téléphone sur la table basse, posé entre son paquet de Marlboro et un jus de fruits pressés, vibra contre le verre. Faruk Yildin grimaça. Il détestait être dérangé pendant cette heure bénie. Il hésita même à répondre. Ministre d'État à 38 ans, tous les médias le prenaient pour un arriviste brûlant les étapes, alors qu'il n'était au fond qu'un romantique dépassé par les événements. Il prit le temps de terminer son chapitre, puis laissa à contre-cœur l'irascible Kéraban au bord de l'hystérie, tira une bouffée de blonde et se pencha vers cette invention du diable capable de vous relier au tumulte du monde jusqu'aux confins de l'univers. La fumée se bloqua dans sa gorge. Il toussa à en réveiller ses 6 enfants. Un seul mot. Aora. Tous les détails de ce putain de protocole étaient conservés dans le coffre de son bureau, mais il en connaissait par cœur les modalités. Elles avaient été négociées bien avant qu'il ne soit nommé à ce poste, par un prédécesseur qui s'occupait également de la sécurité intérieure et des cultes. Faruk Yildin avait été stupéfait de découvrir au bas du protocole Aora les paraphes de plusieurs imams, des représentants des religions alévistes, yarzanites et yézidistes, ces cultes des anges auxquels les Kurdes s'accrochaient, et le président de la République turque lui-même. Un vieux deal entre l'État laïque et les religions de la région. Et après cela, on allait raconter que la Turquie n'était pas une république consensuelle. Il se prit la tête entre les mains et se donna le temps de la réflexion. Dans ce protocole, il n'était qu'une des courroies de transmission, celle du gouvernement. La décision revenait au chef des services secrets, Veysel Erugun, et l'application à l'état-major de l'armée. Le reste, le nombre de morts et le nom des têtes brûlées qu'il faudrait sélectionner pour exécuter avec discrétion le massacre, les motifs archaïques d'un tel déploiement de force, il ne souhaitait en aucun cas les connaître. Il entendit du bruit à l'étage. Il repensa à sa maudite quinte de toux. Foutu. Les gosses allaient descendre, grimper sur ses genoux, se transformer en dictateur haut comme 3 pommes et réclamer câlin, bol de céréales et DVD. Il rangea avec prudence Kéraban le Têtu sous la table du salon, empoigna le téléphone et se dirigea vers son bureau pour s'y enfermer. le général Agar chevauchait avec une raideur toute militaire sa svelte et sportive aide-de-camp. Il tenait à ce qu'Ajda, de 33 ans sa cadette, n'ait aucun motif de se plaindre d'avoir choisi comme amant le doyen de la garnison et mettait un point d'honneur à la faire jouir trois fois par nuit, deux fois le soir et une le matin. À 59 ans, le général Agar pouvait se vanter de conserver une érection à satisfaire le harem de Topkapi. Et ce n'est pas le joli petit cul bronzé de son aide de camp qui allait lui couper la bandaison. Le téléphone sonna. Agar s'en moqua. La brunette, à quatre pattes sur le matelas beige, s'accrochait aux barres de fer rouillées du lit de camp, les muscles des bras et des cuisses tendus par l'effort. Ajda avait une nette préférence pour la levrette. Agar n'avait rien contre, même si une petite voix dans sa tête lui soufflait que sa jeune maîtresse préférait les positions qui lui évitaient la vue imprenable sur le gros ventre flasque du général gigotant au rythme de son va-et-vient. Le téléphone insistait. Agar jura, accéléra la foulée. Ajda tenait la cadence, la garce avait de l'endurance. Le général ahanait. Après la dernière courbe, une longue ligne droite, en sprint s'il vous plaît. Toujours ce putain de téléphone. Agar se pencha, colla son ventre mou comme un sac de linge châle sur les fesses de la belle pour regarder par-dessus sa chute de rein. Nom de Dieu! Cinq lettres s'affichaient sur l'écran tactile. Sa légendaire vigueur se mua en un ersatz de baudruche crevée. Aora. Ajda se retourna et grimaça une moue furieuse de gamine attendant la friandise promise. Agar l'envoya valser sur le côté du lit. Aora. Le général s'assit au bord du lit. Son ventre dégoulina sur ses cuisses poilues. 5h11, indiquait le réveil sur le chevet. Il connaissait parfaitement la suite macabre des événements. Dans les minutes qui allaient suivre, il allait devoir trouver parmi les 3500 gradés qui dirigeaient l'armée turque un homme suffisamment nourri de haine, froid comme un serpent et malin comme une anguille, pour diriger un commando qui exécuterait sans état d'âme des dizaines de civils kurdes, hommes, femmes, enfants.